Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup pour la louange ce matin. C'est toujours une joie de se retrouver en famille pour louer le Seigneur. Bonjour Pascal, bonjour Isabelle. Bonjour vous tous. Alors avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais qu'on prie pour que notre cœur puisse être ouvert. Je pense qu'ils le sont. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est bonne, parce qu'elle est agréable, parce qu'elle nous transforme, parce qu'elle nous forme, parce qu'elle nous réforme. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est joie. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous voulons recevoir ce matin. Seigneur, dans son intégralité, nous voulons, Seigneur, laisser de côté toutes les choses qui peuvent nous empêcher de la recevoir. Et Seigneur, avec humilité, nous nous tournons vers elle pour recevoir la vie. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, André nous avait parlé de l'épître à Philémon et nous avait expliqué le contexte de cette courte lettre, donc je n'y reviens pas. Aujourd'hui, nous allons lire une autre lettre, dans une autre lettre plutôt, parce que celle-ci est plus longue que celle de Philémon. Nous allons lire dans une autre lettre qui a été écrite dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire que l'apôtre Paul est en prison, il est à Rome, il est aux alentours des années 60-62, et il va écrire à une église. Donc, même circonstance, mais pas les mêmes motifs. Cette épître, c'est l'épître aux Éphésiens. Calvin l'a considéré comme son épître préférée. Voilà, chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement dense, l'épître aux Éphésiens. Hein. Dans cette épître, l'apôtre Paul développe un exposé de la foi chrétienne qui est extraordinairement riche et condensé. Et je vais vous donner un exemple de cette richesse. Nous allons lire les versets 3 à 14 du chapitre 1. Alors vous savez, si vous lisez le grec, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une seule phrase. Hein, et si vous le lisez dans la version Darby, vous allez voir que c'est quand même assez costaud à lire. Voilà. Et donc nous allons le lire dans une autre version. Je vous fais grâce. Et ce sera ponctué et ce sera plus facile à lire. Et je vais vous remettre simplement en condition. Lorsque une église recevait une lettre circulaire ou pas, c'était les anciens, les responsables d'église, le pasteur qui la lisait à toute l'assemblée. Alors, je sais ce que je vais faire comme cela, mais je ne vais pas faire tous les six chapitres d'Éphésiens, je vais vous faire que les versets 3 à 14 du premier chapitre. D'accord ? Et puis, ce sera simplement mon introduction. Et je vous invite donc à écouter d'abord, à écouter tout simplement. Et puis peut-être que vous allez percuter quelque chose de cette lecture. Peut-être, pardon des péchés, ça va vous impacter, parce que vous avez besoin d'entendre que le Seigneur pardonne les péchés. Peut-être le mot élection va vous impacter, parce que peut-être vous êtes en recherche de savoir quel est le sens de ma vie, de votre vie. Peut-être le mot grâce va vous impacter parce que vous avez besoin d'entendre le mot grâce. Voilà, alors on va lire. Béni soit Dieu, c'est une louange. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Première phrase de l'Épître, combien riche, combien condensé. Hein, vous avez tous les mots-clés que j'ai pu noter dans ce cercle. Béni de toute bénédiction, grâce, élection, adoption, amour irréprochable, sanctification, héritage, rédemption, scellé du Saint-Esprit, pardon des péchés. Quand les temps seraient accomplis, réunir toutes choses en Christ. Waouh, c'est un grand salut que nous avons, n'est-ce pas? Pas un petit salut. Cette première phase, qui est en fait une prière d'action de grâce, Paul remercie et loue le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, pour l'immensité du plan du salut. Paul exalte le Dieu souverain, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a choisis librement, par amour, dès avant la fondation du monde, qui nous a adoptés pour être ses enfants, qui nous a conduits dans la sanctification et qui continue de nous conduire dans la sanctification, qui nous a rachetés, qui nous a délivrés par le sacrifice de son Fils, qui nous a scellés du sceau de son Esprit, qui nous conduit dans notre héritage, qui nous place au sein de son peuple, et cela jusqu'à la délivrance finale qui verra le Fils régner sur toute chose. Nous sommes en chemin, hein, dans la réalisation de ce plan de salut. Et il y a un terme quand les temps seront accomplis. Et Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. On l'a entendu dans la bouche d'Élisabeth ce matin. Dieu est fidèle pour accomplir son dessein. En une seule prière, toutes les importantes doctrines sont exposées en louange. La semaine dernière, André nous avait dit de ne pas avoir peur des doctrines. Hein ? Création, élection, rédemption, adoption, sanctification, glorification, règne de Dieu sont réunis ici, dans une explosion de louanges. Et la grâce est au cœur de cette prière. Car, vous avez vu, nous sommes des bénéficiaires et on ne participe pas en aucune façon à ce salut. Que des bénéficiaires. Tout est gratuit. Tout est gratuit pour vous. Tout est gratuit pour nous. Parce que le Fils a payé. Le plan du salut, c'est de nous placer en Jésus-Christ. Le plan du salut, c'est d'être placé en Jésus-Christ. Parce que vous savez, en dehors de lui, nous n'avons pas ça. C'est en lui que nous avons ça. Lorsque nous sommes en lui. Alors, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas au centre de cette prière. C'est vraiment le Dieu, plein de grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de cette prière. C'est Jésus qui est au centre de cette prière. C'est Jésus-Christ qui est au centre de cette prière. C'est lui qui est l'objet du plan du Dieu souverain. Et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs ? C'est répété 3 fois et j'espère que ça vous a impacté. Allez. Louez le Seigneur. Célébrez sa gloire. Célébrez sa gloire. Alors, je vous conseille de reprendre cette phrase chez vous. C'est une seule phrase. Et puis de la méditer et puis de la prier. Dans la louange. En faisant vôtre ce qui nous est dit. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, merci parce que tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle. Merci Seigneur parce que tu m'as élu dès avant la fondation du monde. Merci Seigneur parce que j'ai le pardon de mes péchés par Jésus-Christ en son sang, etc. etc. Je veux dire, vous allez avoir une grâce et une profondeur dans votre prière que vous n'avez jamais vécue si vous vous interrogez, si vous prenez, si vous faites vôtre cette prière de l'apôtre Paul. Il y a une richesse incomparable dans tous ces mots. Alors, allons plus loin maintenant dans notre lecture. Ça, c'était que l'introduction, c'était déjà du costaud. Cette fois-ci, j'ai mis le texte sur la diapo. Vous n'allez pas l'entendre, vous allez le lire avec moi. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Tu peux passer la suite ? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et on va s'arrêter là. Waouh ! Nous allons reprendre petit à petit une partie de ce texte. Il y a beaucoup de choses à dire, vous vous en doutez, mais je vais juste développer certains points qui me parlaient personnellement et que je pensais que l'Église avait besoin d'entendre. Et donc, à vous de continuer votre propre méditation sur ce texte, n'est-ce pas ? Et donc, je voudrais vous parler ce matin sur 4 points, sur la prière et la souveraineté de Dieu, sur la prière et la recherche des biens spirituels, sur la prière et la progression dans la connaissance de Dieu, et la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Prier pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Alors, dans la première partie de ce chapitre 1 que vous avez écouté, Paul commence par une louange au Dieu souverain qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, qui nous a tout donné en Jésus-Christ. Ok ? Vous êtes d'accord avec moi ? Vous l'avez entendu comme moi ? On l'a lu. Hein ? La seconde partie de la prière de l'apôtre Paul est une prière qui demande. Est une prière qui demande. Il demande au Père de gloire de donner un esprit de sagesse et de révélation pour mieux le connaître. Il demande une illumination des yeux du cœur pour mieux comprendre les richesses de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. L'essentiel de cette prière, en fait, c'est que Dieu qui a planifié ce salut, qui a accompli ce salut, puisse l'achever au fur et à mesure que son peuple grandira dans sa connaissance de lui. Alors, n'est-ce pas contradictoire ? Si Dieu nous a tout donné dans sa souveraineté, s'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, pourquoi l'apôtre Paul éprouve-t-il alors la nécessité de demander encore une bénédiction ? Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de sa louange antérieure ? Eh bien non. Et même sa confession de louange explique sa demande. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il a confessé toutes les bonnes choses que nous avons en Christ qu'il, je dirais, ose demander avec confiance d'autres choses. Ce n'est pas une demande qui est faite dans la frustration, C'est une demande qui est faite dans la confiance, avec une action de grâce. La prière de demande que nous pouvons tous faire, que nous sommes habitués à faire, la prière de demande, est nécessaire dans la vie du chrétien parce qu'elle témoigne de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. La prière ne s'appuie pas sur notre capacité de langage, sur notre force de langage, sur le ton de langage, ni sur la manière dont nous parlons. Le Seigneur entend toutes les paroles de prière, qu'elles durent 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, qu'elles soient dites avec des bons mots en français ou qu'elles soient dites en bafouillant. Le Seigneur entend toutes ces prières-là, hein, lorsqu'elles sont dites dans la confiance. Donc la prière de demande ne s'appuie pas sur notre force de langage, elle s'appuie sur ce que Dieu a fait. C'est parce que Dieu a fait quelque chose pour notre salut que nous pouvons demander que son salut s'accomplisse en nous. Un même exemple, vous vous rappelez cette parole de Jésus. Avant de la bâcler, je vais quand même la lire, c'est dans Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Le Père sait ce que vous avez besoin. Et juste après, Jésus enseigne la parole, la prière du Notre Père, où il nous est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est parce que le Père sait tout ce dont nous avons besoin, qu'il nous exhorte à déployer notre confiance en demandant notre pain. Il sait que nous avons besoin de notre pain et il nous exhorte à demander notre pain. Il a tout accompli en Jésus-Christ, mais il nous exhorte à demander, à recevoir le salut pleinement. Vous voyez la démarche ? Ce n'est pas une prière de frustration. C'est une prière de confiance. Et ça fait toute la différence. Prière et bien spirituel. Alors, j'ai été interpellé par le motif de prière de l'apôtre Paul. Il demande des biens spirituels pour ses frères dans la foi. Alors, c'est quelque chose que nous ne pratiquons pas beaucoup. En tout cas, moi, il me semble. Et en tout cas, dans ma vie personnelle, je ne le pratique pas. Donc, on ne va pas généraliser. Peut-être vous le pratiquez, vous. Ça, ce n'est pas un problème. Alors oui, lorsqu'il y a des besoins de santé, je prie. Lorsqu'il y a des besoins matériels, je prie. Hein ? Lorsqu'un frère nous dit « j'ai besoin de prière parce que j'ai besoin de travail », par exemple, je prie pour cela. Mais est-ce qu'il nous vient à l'esprit de prier pour ses biens spirituels ? Que tu grandisses dans la connaissance de Dieu, mon frère. Que tu sois rempli de l'esprit, mon frère. Que tu sois émerveillé de la grâce de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Hein ? L'apôtre Paul ne demande pas de la richesse, ne demande pas des biens matériels. Il demande au contraire qu'on soit riche de bonne santé spirituelle. Hein ? Alors, une des prières que je fais en ce moment de manière abondante pour notre assemblée, de manière collective et aussi, je dirais, pour presque pratiquement pour chacun d'entre vous de manière personnelle. Je vous dévoile ma prière. Seigneur, que nous puissions comprendre ensemble quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Seigneur, fais-nous prendre conscience que tu nous as appelés, chacun. Fais-nous comprendre ce que tu veux pour notre vie. Fais-nous comprendre que nos vies te servent et servent pour célébrer ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous subordonner tous nos choix de vie à cet appel. Seigneur, si je dois choisir entre un meilleur sans toi et un moins bon avec toi, que ce soit le moins bon avec toi que je choisisse. Je préfère habiter un jour dans les parvis de ta maison que mille ailleurs. Comme notre frère aîné a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, Seigneur, fais-nous comprendre quelle est l'espérance de notre appel. Ça, c'est ma prière pour l'Église. Fais-nous rentrer dans l'espérance de notre appel. Nous sommes appelés par le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger de prier pour les besoins matériels. Hein. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Les besoins matériels, lorsque Dieu répond, c'est aussi un effet de sa grâce. Et nous sommes invités à prier pour ces besoins matériels. Mais aussi, ne pas oublier, à prier pour que la grâce de Dieu, eh bien, soit sur nos frères et sur nos sœurs. Prière pour la connaissance de Dieu, pour progresser dans la connaissance de Dieu. Le sujet central de la demande de Paul, c'est la connaissance de Dieu. Que l'Église à Éphèse grandisse dans la connaissance de Dieu. Alors, est-ce que Paul interpelle les croyants à Éphèse pour qu'ils s'inscrivent tous à la fac de théologie du coin ? Est-ce que Paul leur dit qu'il y a des enseignements cachés qui ne s'ouvrent que pour les plus performants ? Rien de tout cela. Hein ? On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans le connaître lui. Un chimiste dans un désert peut très bien connaître toute la chimie de l'eau, mais s'il ne boit pas la cruche qui est devant lui, il va mourir de soif avec une grande connaissance. Connaître Dieu au préalable, cela dépend de lui, dans la mesure où il se dévoile à nous. On peut côtoyer des personnes de nombreuses années et découvrir, en fin de compte, qu'on ne les connaissait pas parce qu'ils ne se sont pas ouverts à nous. Or, le Seigneur s'est dévoilé à nous. Tout au long de l'histoire humaine, il a parlé. Ses paroles ont dit tout ce dont nous avons besoin pour connaître le Seigneur. Il ne nous dit pas tout ce qui le concerne, parce que ça dépasserait notre imagination. Mais il nous dit tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Et ultimement, Dieu s'est fait connaître par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le seul chemin pour aller au Père. Vous connaissez l'histoire de Thomas d'Aquin, je l'ai déjà racontée. Alors bon, vous allez rire quand même si vous la connaissez, la fin, la chute. Hein. C'est Thomas d'Aquin qui arrive. Vous savez, Thomas d'Aquin, c'était un grand docteur théologien du Moyen-Âge, et il a écrit ce qu'on appelle la somme théologique, donc quelque chose d'immense, énorme, je ne sais plus combien de volumes, hein, au sujet de Dieu. Et donc, il se retrouve devant le bureau du Seigneur, et puis le Seigneur lui dit, il paraît que tu as écrit quelque chose sur moi. Alors Thomas d'Aquin lui montre tous ses ouvrages, ça pèse des tonnes là, hein, de livres. Le Seigneur lui dit, tu peux me les prêter, je vais les feuilleter. Et alors, le Seigneur les feuillette, et il dit, ben, bravo Thomas, je ne savais pas tout ça sur moi. Merci de rire. Oui, si le Seigneur ne se dévoile pas, on ne peut rien connaître de lui, hein, mais il s'est dévoilé. Connaître Dieu, c'est d'abord une question de relation personnelle avec lui. On ne peut pas vraiment connaître quelqu'un sans le fréquenter. Hein ? Dans la fréquentation du Seigneur, nos vues, nos intentions changent. Notre compréhension du monde change. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est aussi s'engager avec lui tout entier, sentiment, volonté, intelligence. Quand j'ai commencé à connaître Chantal, eh bien, nous nous sommes percutés l'un et l'autre. Hein, nous nous sommes changés l'un par l'autre. Et avant que je connaisse Chantal, j'étais tout à fait différent de ce que je suis. Hein, parce qu'elle m'a fait connaître qui elle était. Je me suis adapté à ce qu'elle était. Et nous avons cheminé et nous cheminerons encore. Et nous allons encore changer l'un par l'autre. Le Seigneur, lui, ne change pas. Hein, c'est nous qui changeons, d'accord ? La relation, la connaissance que nous avons l'un de l'autre nous change, affecte tout ce que nous sommes. Et alors connaître Dieu, cela va nous apprendre à haïr ce qu'il déteste, à aimer ce qu'il aime. Apprendre à le connaître, c'est apprendre à connaître ses désirs. C'est désirer qu'il nous parle, qu'il nous transforme. C'est désirer. C'est prendre à cœur son intérêt, ses intérêts. C'est ça, le connaître. Et lorsque l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens grandissent dans cette connaissance de Dieu, c'est cela qu'il prie. Hein ? Dans cette croissance de la connaissance de Dieu, nous comprenons peu à peu que nous fréquentons quelqu'un qui n'est pas notre égal et qu'il est, lui, le centre et le fondement de la relation. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est le voir à sa juste place et c'est me voir à ma juste place. Il est mon sauveur, il est mon roi, il est mon seigneur, il est mon père et moi je suis un sauvé, je suis un serviteur, je suis un fils, je suis un citoyen du royaume, je suis une brebis de son troupeau puisqu'il est le bon berger. Notre amitié avec Dieu n'a pas d'équivalent dans les relations humaines. Lorsqu'on dit « je suis ami avec un tel », c'est souvent de position d'égal à égal, n'est-ce pas ? Sinon, il n'y aurait pas de véritable amitié s'il n'y a que simplement du donnant et quelqu'un qui reçoit. Vous voyez ? Mais l'amitié que le Seigneur nous donne dans la croissance n'a pas d'équivalent de l'amitié humaine. Si Jésus a fait de nous ses amis, la réciproque n'est pas au même niveau. On ne peut pas dire à Jésus « Tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. » Est-ce que vous avez déjà dit ça à Jésus ? Hein ? C'est-à-dire « Tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. » Par contre, lui, il l'a dit à ses apôtres et il le dit à chacun d'entre nous. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, sachons rester à notre juste place lorsqu'on commence à connaître de mieux en mieux le Seigneur. Alors, finalement, le connaître, grandir dans cette connaissance, c'est aussi une manifestation de sa grâce souveraine. Parce que lui nous connaît parfaitement et il sait que nous sommes un petit peu décalés par rapport à ses attentes. En tout cas, moi. Je suis décalé par rapport à ses attentes. Mais lui, il n'y a rien de caché. Devant lui, il n'y a rien de secret. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui serait inavouable ? Eh bien, lui, il le sait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pourriez pas dire sans avoir honte ? Eh bien, lui, il le sait. Il vous connaît. Parfaitement. Et il sait qui appelle au bout du téléphone. Mais malgré ce que nous sommes, il a décidé de faire alliance avec nous par sa grâce. Il nous a déclaré son affection. Il a déclaré qu'il garderait sa fidélité jusqu'à la fin. Il a décidé de nous garder, de nous protéger. Il a décidé de faire de nous ses enfants par grâce. Waouh ! Quel amour, quelle grâce ! Priez pour être rempli du Saint-Esprit. Dans cette progression dans la connaissance de Dieu, dans ce désir de croître dans la connaissance de notre Seigneur, le Saint-Esprit a une place primordiale. C'est lui qui nous a convaincus de péché un jour où on ne s'entendait pas peut-être. Hein. Il est venu, il a tapé à notre porte, il nous a montré notre misère. Nous avons vu que nous étions des hommes et des femmes misérables et il est venu nous apporter son pardon, sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous a montré le Sauveur. C'est encore lui, le Saint-Esprit, qui nous a fait naître de nouveau, il nous a régénérés. Hein ? C'est lui qui a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Hein ? C'est lui qui nous a fait déborder une fois, alors que nous étions plongés en lui. C'est lui qui nous donne les charismes en vue d'être équipés pour le service de l'Église. Et c'est encore lui qui nous transforme peu à peu en nous faisant porter son fruit. Mais est-ce une fois pour toutes ? Est-ce une fois pour toutes que vous avez été remplis du Saint-Esprit ? Est-ce une fois pour toutes que le Saint-Esprit est venu chez vous ? Est-ce une fois pour toutes ? L'apôtre Paul demande que le Saint-Esprit soit donné, un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Est-ce que les Éphésiens ne l'avaient pas reçu avant ? Ils demandent, pour croître dans la connaissance de Dieu, la nécessité du Saint-Esprit, la nécessité d'un esprit de sagesse, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de la révélation. Est-ce une fois pour toutes ? Non. Non. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous sentez que le Saint-Esprit a une certaine liberté chez vous ? Est-ce que vous vous sentez rempli de sagesse ? Moi non. Alors je demande. Si un enfant demande au père un poisson, un pain, est-ce que le père va donner une pierre ? À combien plus forte raison le père donnera-t-il son esprit à celui qu'il demande ? Comment vous sentez-vous ? Mais ce n'est même pas une histoire de sensation ou de sentiment. C'est continuellement que nous devons demander le Saint-Esprit. Quand avez-vous entendu la voix du Seigneur pour la dernière fois ? C'est tout à l'heure, hein ? Il nous a parlé. Il nous a parlé. Mais vous, personnellement ? Puis quand ? Semaine dernière, non, c'était cette semaine, au groupe de maison, on a témoigné de comment le Seigneur nous avait parlé dans des telles ou telles situations. Et puis on a vu comment le Seigneur aimait parler. Le Seigneur a dit à un tel de retourner à son lieu de travail parce qu'à ce moment-là, il fallait qu'il donne un évangile. Que le Seigneur avait parlé à un tel pour lui annoncer la grâce de manière particulière. Que le Seigneur avait parlé à quelqu'un dans sa voiture parce que cette personne se sentait seule et délaissée. Le Seigneur lui a montré sa présence au sein de sa voiture. Nous avons affaire à un Dieu vivant. Et est-ce qu'on peut lui demander, Seigneur, parle. Tu es vivant, parle. Donne ton esprit encore. Donne ta sagesse encore. Donne ta révélation encore. Un esprit de révélation, ça veut pas dire un esprit qui rajoute quelque chose à la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Hein ? Ok, ça on balaye. Mais c'est un esprit qui nous révèle quelque chose qui était pour nous peut-être caché ou pas compris. Alors, mes amis, je vais m'arrêter là, mais je voudrais qu'on se lève. Je voudrais qu'on se tourne vers le Seigneur. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Il n'y a aucune qui manque dans le salut de Jésus-Christ. Mais on peut lui demander, Seigneur, fais-moi comprendre combien je suis pardonné. Tu vois ce péché qui est récurrent chez moi. Est-ce que tu me le pardonnes chaque fois ? Seigneur, moi, je suis dans une impasse dans ma vocation chrétienne. Pourtant, tu as dit que tu m'avais appelé pour célébrer ta gloire. Montre-moi, Seigneur, le chemin pour que je puisse célébrer ta gloire dans cette situation. Seigneur, moi, je me sens un peu vide. J'ai l'impression que le Saint-Esprit, il n'habite pas en moi de manière vitale. Est-ce que je peux te demander, donne-moi le Saint-Esprit encore ? Oui. Je crois que le Seigneur veut nous visiter ce matin. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi tu ne lui demandes pas ? Dans une prière de confiance. Je vous engage simplement à ouvrir vos mains devant le Seigneur, si vous voulez. Seigneur, merci parce qu'en Christ, nous avons tout. Et Seigneur, ensemble, nous voulons te demander esprit de sagesse et de révélation. Ensemble, Seigneur, viens nous visiter, et chacun de notre côté. Parle-nous ce dont nous avons besoin d'entendre de ta part. Donne-nous ces biens spirituels que tu as acquis à la croix. Viens nous rafraîchir aussi, Seigneur, dans un sentiment de plénitude. Dans cette même épître, l'apôtre Paul a dit « Soyez toujours remplis de l'Esprit. Soyez imbibés de l'Esprit. Soyez saturés de l'Esprit. » Père de gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, donne-nous l'Esprit. Amen. Amen.